Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, comme tous les dimanches. C'est une vraie joie de pouvoir partager un moment sa parole, la parole de l'Éternel. Ce matin, j'ai envie de partager avec vous un sujet un peu difficile. J'aimerais vous parler d'offense, de conflit, de pardon. Et je vais plus me focaliser sur la partie de l'offense. Le pardon en lui-même, c'est un thème difficile, très difficile. Il y a même beaucoup qui ont étudié ce sujet et des avis différents ressortent. Une chose est certaine, le pardon, c'est une exigence de Dieu. Il est rappelé dans notre Père, dans le Notre Père. Donc on se souvient, il y a les disciples qui demandaient à Jésus, comment devons-nous prier? Et donc on voit ça en Matthieu 6 au verset 9, et Jésus leur répond. Donc c'est vraiment une parole directe de Jésus. Il n'y en a pas forcément énormément dans la parole, des textes directs. Et il dit ceci, voilà comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et les versets qui suivent, là, donc c'est déjà fini, le Notre Père, entre guillemets, il est précisé ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc on voit au verset 12, pardonne nos offenses, donc on demande à Dieu de nous pardonner nos offenses, notre péché, et c'est lié immédiatement après à notre propre pardon à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on retrouve ce principe qui est répété au verset 15 et 14, mais de façon encore plus claire et plus accentuée. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si je m'attache littéralement à ce qui est écrit, notre pardon ne peut être accordé par notre Père Céleste si on n'accorde pas notre pardon à ceux qui nous ont offensés. Donc, pour pouvoir pardonner, etc., il faut déjà comprendre c'est quoi l'offense. Donc, dans ce message, je souhaite me focaliser sur la partie de l'offense. Car si on doit pardonner ceux qui nous ont offensés, il faut définir l'offense, de quoi on parle. Sinon, on ne peut pas pardonner, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est d'analyser le conflit. Un conflit intense entre Jésus, qui était juif, et les autres juifs qui l'entouraient, et d'analyser un texte. Donc c'est l'exemple de la purification du temple, quand Jésus est entré dans le temple, afin de pouvoir s'en inspirer pour la suite du message. Donc en Jean, au chapitre 2, le verset 13, donc c'est Jésus qui purifie le temple. Donc Jean 2, à partir du verset 13, « La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 48 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Donc on va passer à l'analyse de ce texte un petit peu pour bien comprendre et le contexte et le contenu. Donc la Pâque juive était proche, la Pâque juive était le rappel de la délivrance de l'esclavage en Égypte, et la délivrance est venue de la part de Dieu. Pendant la phase de délivrance, Il y a beaucoup de symboles prophétiques pour la suite du plan de Dieu pour notre salut. Nous retrouvons le sang posé sur les linteaux des portes offrant la protection contre la dernière plaie d'Égypte et qui sera un fondement pour la Pâque juive qui est décrite donc en Exode 12, en verset 1. Je vous propose de lire ce texte, donc Exode 12, au verset 1. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. » Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » On va continuer juste un petit peu, encore trois versets à partir du verset 11. Il est écrit « C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi en exécution mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en célébrant une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Donc, le sang de l'agneau délivre les Juifs en Égypte, de la même manière que le sang de l'agneau Jésus nous délivre du péché. Et il nous délivre du jugement. Pour les Juifs en Égypte, il s'agit du jugement contre les faux dieux. Et pour nous, il nous délivre du jugement de condamnation à mort contre notre propre péché. Et ainsi, Jésus prépare sur l'importance du sang pour la purification, son propre sang. Il s'agit d'un moment prophétique et d'enseignement. La Pâque rappelle également, une fois la délivrance contre le jugement effectué par le sang, le moment de la traversée des eaux de la mer des Jonc, afin de préparer pour nous, après avoir été délivrés, de passer par les eaux du baptême, c'est ce qu'on a fait ce matin, afin de marquer, et de témoigner le début et l'engagement d'une vie nouvelle ou d'une vie renouvelée. Donc Jésus monta à Jérusalem. Il prit la décision d'honorer ce que Moïse avait prescrit, ce qu'on vient juste de lire. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vos fils, pour vous au fil des générations. Jésus va donc à Jérusalem. Il est dans la vérité au regard de ce que son père attend. Et que trouve-t-il ? Il trouve des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Quel choc ! Jésus vient célébrer la Pâque. Il vient dans la maison de l'Éternel qui est le symbole de sa présence et donc de sa sainteté. Et au lieu de trouver un peuple d'adorateurs en train de se préparer pour ce moment essentiel qu'est la Pâque, essentiel historiquement pour les Juifs et prophétiquement pour l'arrivée du Messie pour toutes les nations de la terre, il trouve un peuple en train de commercer dans le lieu saint. Certes, dans le commerce, il y a le symbole de l'argent qui est à l'origine de beaucoup de maux, mais surtout, le peuple n'est pas focalisé sur l'Éternel. Il est préoccupé par les soucis du quotidien de gagner de l'argent pour vivre ou s'enrichir. Il n'a pas la foi que Dieu pourvoit à tous les besoins. En fait, il trouve deux choses. La violation de la loi de l'Éternel et le manque de foi, qui est aussi une violation, quelque part. Et que fait Jésus à ce moment ? Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Jésus agit avec violence et intentionnellement. Il provoque les vendeurs et les chefs religieux qui certainement étaient participants de cet acte. Nous trouvons ensuite une phrase qui rappelle la prophétie donnée des années auparavant. Et c'est dans le passage. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Par cette petite phrase, sans grande importance en apparence, il est précisé le souvenir des disciples. Le souvenir est plus précisément la connaissance des disciples de la parole de Dieu. Directement, ils sont capables de comprendre et de discerner ce qui est en train de se passer. Si tu veux être disciple, il faut connaître la parole de Dieu, la Bible. Sans la connaissance de la parole, il est impossible de discerner le plan de Dieu. Revenons au texte. Jésus a provoqué les marchands et les juifs présents. La défense de leur part commence. Les juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Je pense que les juifs connaissaient Jésus, car sa renommée commençait à être importante et ils savaient donc ce que Jésus proclamait. Il est de Dieu, et plus précisément que Dieu était son Père et qu'il était par conséquence fils de Dieu et donc divin. Ne faites pas de la maison de mon Père, etc. Les Juifs l'attaquent donc sur cette position de fils de Dieu, comme ils ne croient pas en lui. Ils demandent un signe pour le mettre à l'épreuve et essayer de le ridiculiser publiquement. Les Juifs s'attendent alors éventuellement à une guérison, peut-être, je ne sais pas. Mais Jésus va leur donner un miracle ou un signe plus grand, car il les aime, c'est un point important. Et ainsi, il prépare leur salut à l'avance, en donnant une des plus grandes prophéties concernant le plan de Dieu. Cette prophétie et cet événement se trouvera d'une importance cruciale pour les disciples qui ont assisté. On constate donc que l'intention de Jésus est toujours positive et bonne. C'est une démonstration d'amour. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à la parole, à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Les Juifs, au lieu de recevoir la parole de Jésus afin de développer leur foi, la rejettent et ne comprennent pas sur l'instant. Peut-être certains d'entre eux se souvinrent de cette prophétie et ont été sauvés après, lorsqu'ils constateront que Jésus est mort et 3 jours après ressuscité. Et ainsi, le temple de Dieu est installé sur cette base. La suite du texte est très surprenante. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il s'agit ici d'heures et de jours qui ont suivi la confrontation dans le temple. Finalement, certains juifs vont recevoir ce qu'ils avaient demandé, des signes. Beaucoup ont donc cru en Jésus, mais uniquement parce qu'il avait fait ce qu'il demandait de lui, ce qui conduit à l'échec pour ses croyants. Quand on vient à Jésus uniquement pour recevoir ce qu'on demande, il n'y a pas de possibilité de développement ou de croissance spirituelle. Je crois qu'il en va de même également dans la relation entre les hommes. Analysons le conflit. D'un côté, les marchands accompagnés, je l'imagine des chefs religieux, car je ne vois pas les marchands s'installer tranquillement dans le temple, certainement le monument le plus important de la ville, faire leur business sans l'accord des responsables. De l'autre côté, Jésus accompagné des disciples. Pour les marchands, ayant l'accord des responsables, ils obéissaient à la parole que l'homme devait travailler pour subvenir à ses besoins. L'activité de vente n'est pas mal en elle-même. Après, il faut voir la relation qu'on a avec l'argent. Il n'y a donc pas de problème. Pour les chefs religieux, ils ont l'autorité de gérer le temple et la responsabilité des activités. Ils se considèrent à part, car issus de la tribu de Lévi, dont la fonction est de gérer et administrer le culte. Ils ont donc l'autorité venant de Dieu pour décider. Pour Jésus, il vient à Jérusalem, adorer son Père, et trouve le lieu d'adoration rempli de marchands bloquant sa possibilité d'adorer, et encore plus grave, bloquant le peuple de Jérusalem de venir adorer. En plus, je peux l'imaginer que le cœur de certains marchands n'était pas droit devant Dieu. Jésus, avec sa haine du péché et sa volonté que le plus grand nombre soit sauvé, voit rouge, un rouge écarlate. Il faut agir et nous connaissons la suite. Le conflit apparaît donc de points de vue différents. Ils sont totalement opposés dans ce cas-là. La confrontation est inévitable. Et il va y avoir des personnes blessées. Chacun pense avoir raison et être dans son bon droit. En réalité, les deux camps, dans cette situation, se sentent offensés. Et il va y avoir donc des personnes blessées. C'est-à-dire, donc, les deux camps sont offensés. Jésus, c'est-à-dire Dieu, voit un mépris total envers lui et son Père. Il reçoit la première attaque, il va répondre et attaquer le camp des marchands et des chefs religieux. Et bien sûr, pour nous qui avons le recul et la suite de la parole, ce qui est important dans ce cas, c'est la vérité. Quelle est la vérité ? Celle qui vient de Dieu, bien sûr. Le discernement de la vérité, à l'instant donné, n'est peut-être pas toujours évidente. Et j'aimerais faire une pause maintenant, car il y a un élément fondamental que je viens de glisser dans mes dernières phrases, avoir la haine du péché. On ne s'était pas synchronisé avec Josué, mais on voit que c'est le même sujet. Nous connaissons que tous nous ne devons pas pécher. Mais il y a quelque chose qui peut être dans notre cœur. Même si nous ne voulons pas pécher, il est possible d'aimer le péché dans notre cœur et de s'y attacher. Je pense de plus en plus que nous devrions et que nous devons avoir la haine du péché. Le péché est l'obstacle qui nous bloque pour notre salut et notre relation avec Dieu. Au point que le Père nous a donné Jésus pour payer pour nous. Il n'y a donc pas de doute. Il faut dans notre cœur l'amour, l'amour ou la tolérance du péché soit arrachée pour le transformer en haine contre le péché. Ce que j'ai eu à cœur quand je préparais ce message, c'était on va peut-être faire une petite pause quelques instants et prier, dire Seigneur, enlève cette haine, cet amour qu'on pourrait avoir peut-être pour le péché et vraiment installe la haine contre le péché qui nous détruit. Et je vous propose juste de prendre quelques instants et qu'on puisse prier pour ce sujet. Père Saint, on nous l'a rappelé encore ce matin, Seigneur, le péché c'est ce qui détruit nos vies. C'est ce qui nous anéantit, ce qui nous bloque dans notre relation avec toi, dans notre croissance, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais que dans notre cœur, tu arraches tout amour, toute tolérance à ce péché, Seigneur. Que tu l'arraches, que tu l'enlèves, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin d'être plus proches de toi, Seigneur. Et d'être pleinement délivrés, comme on nous l'a rappelé ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, même si nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, par la foi dans la puissance du sacrifice de Christ, il n'en reste pas moins que nous passerons tous en jugement pour nos actes devant Dieu. Et du résultat de ce jugement correspondra la position que nous aurons pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Personnellement, je souhaite être le plus près possible du Sauveur. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas jouer avec le péché et le combat de tout notre cœur, ne pas jouer avec notre salut et le péché. Et cette vision de l'éternité, dire « je veux être le plus proche possible de Dieu », ça nous aide aussi à combattre ce péché et à lutter et avoir le dessus. Revenons à l'analyse de la situation et allons plus loin encore. Et pour cela, passons par la définition de l'offense. Je vais prendre la définition du dictionnaire. J'ai pris le Larousse là dans ce cas-là. Parole, action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur, pardonner une offense. Faute, péché qui offense Dieu. Et dans les synonymes à offense, nous retrouvons affront, insulte, outrage. Il s'agit donc de situations extrêmes et de propos extrêmes. Au travers de cette définition, on peut distinguer deux choses différentes. L'offense envers quelqu'un, qui va le blesser dans sa dignité et dans son honneur. Et dans ce cas, les critères peuvent être différents d'une personne à l'autre. Il y a des choses très claires. Si je lance mon poing dans la figure de quelqu'un, je pense que c'est universel. Mais si je prends l'exemple d'un président français qui par sympathie ou familiarité, a posé sa main dans le dos d'une reine d'un pays outre-Manche, on n'est pas sur les mêmes critères. Pour l'un, c'est de la sympathie. Pour l'autre, c'est un manque de respect. Ça dépend. Il y a des choses qui dépendent de notre culture. Quant à l'offense envers Dieu, les règles sont définies et ces règles serviront de référence. Revenons donc à la confrontation dans le temple et regardons le but de chaque partie de façon synthétique. Le but des marchands était de profiter d'un endroit stratégique pour augmenter le plus possible les profits. Le but des chefs du temple était de protéger leur position de responsable, influent, de maître, position d'autorité. Le but de Jésus était que le temple soit honoré, un endroit de louange où on rencontre Dieu. Et il s'est également servi de la confrontation pour annoncer le royaume au travers de la prophétie de sa mort et de sa résurrection. Il s'est donc occupé avec amour des offenseurs de Dieu. Et ainsi, quand on regarde au but recherché, il est plus facile de discerner le camp qui a raison. Dans l'exemple, c'est binaire, le bien, le mal. Parce que un des deux camps avait violé l'instruction de Dieu de faire du temple un lieu saint. Regardons maintenant ce conflit sous un autre angle également. Le contexte général était le suivant. Le plan de Dieu était de sauver l'humanité au travers d'un puissant sauveur venu payer à notre place pour nos transgressions. Dieu avait donné la description de nos transgressions au travers de la loi que Moïse avait reçue, les commandements. Et pendant des siècles, les prophètes ont annoncé sa venue et de quelle manière il se comporterait, le Sauveur. Comme par exemple dans Ésaïe 53 au verset 5, donc Ésaïe 700 ans à peu près avant Jésus-Christ, en Ésaïe donc 53 verset 5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Nous étions donc, au moment du conflit, peu de temps avant le sacrifice indispensable au salut de tous ceux qui le souhaitent. Et l'ennemi de nos âmes était à l'œuvre pour contrecarrer le plan de Dieu. Et il n'y a rien de tel qu'une offense pour briser une personne. Faisons donc extrêmement attention lorsqu'il y a une offense envers une personne, à discerner ce qui est caché, non visible, de discerner dans les deux directions. Est-ce que la personne en face de moi l'est manipulée ou est-ce que je suis manipulé moi-même? Sur la base de cet exemple de comportement lors de cette confrontation, on se rend compte que ce qui est important, c'est l'intention de la personne, la position de chacun et la vérité. Lorsque nous sommes en conflit, quelle est notre intention? Est-ce pour nous élever? Pour nous glorifier? Montrer que l'on est le plus fort? Est-ce pour humilier l'autre et peut-être ainsi s'élever? Dans tous ces cas, on est dans l'erreur. Il est indispensable, en cas de conflit, d'évaluer les raisons de notre action. Est-ce parce qu'on éprouve de la haine ou du mépris pour l'autre? Il est vraiment nécessaire d'examiner ce qui est dans notre cœur. C'est ce que nous enseigne la parole qu'au moment du partage du pain et du vin, donc la Sainte Cène, ce que nous venons de faire, que chacun s'examine, c'est dit dans la parole, que chacun s'examine. Le mot examiner est très fort. Un examen est détaillé, précis, basé sur la vérité. Dans le cadre médical, un mauvais examen peut avoir de graves conséquences. De la même manière, si notre examen n'est pas correct au moment d'un conflit, les conséquences peuvent être destructives. Le pendant de cet aspect est d'examiner l'intention de l'autre. Il se base sur plusieurs critères. Quel est le message qu'il veut me transmettre sur le fond et sur la forme? Quel est le comportement habituel de cette personne? Est-ce destructif ou est-ce constructif? Les comportements habituels sont liés à notre éducation, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Notre culture, notre caractère, etc. C'est pourquoi la parole nous dit « Supportez-vous les uns les autres ». Mais il ne faut pas se baser sur ce verset pour justifier notre propre comportement qui parfois est inadmissible. Regardons ce qui irrite l'autre afin de nous adapter et de ne pas le faire évidemment. Regardons l'exemple de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9 à partir du verset 20. 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Il y a donc même une récompense à ce comportement, afin d'avoir part à ses bénédictions, les bénédictions de l'Évangile. Adaptons-nous à la personne en face, et ça demande de la force, bien qu'en apparence c'est une faiblesse. Enfin, dans notre intention, lorsque nous entrons en conflit, veillons à y attacher une espérance et une bénédiction à la personne en face. Jésus, lors de l'affrontement dans le temple, a veillé à semer la bénédiction et l'amour. Mettez-vous à la place des chefs religieux, des personnes instruites, éduquées, certainement intelligentes. Eh bien, Jésus va glisser des paroles de vie. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Dès que ces personnes ont entendu que Jésus était ressuscité 3 jours après sa mort, elles ont dû être surprises. Je pense que le mot « 3 » n'a plus jamais eu la même signification pour elles. Après, c'est à la personne d'accepter ou pas. Mais je pense honnêtement qu'il ne pouvait pas y avoir de plus grande bénédiction. Le guide pour nous aider en cas de conflit est la vérité. Suis-je dans la vérité ? Il est certainement possible de demander un avis extérieur pour nous aider à discerner, car cet aspect de discernement n'est pas évident. Certaines personnes ont un don de discernement, mais pour nous, ou pour nous, je ne sais pas ce que je dois dire, on peut se baser sur Jacques 1, à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Il y a des moments où on a besoin de sagesse extérieure, on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Nous pouvons nous appuyer sur notre puissant sauveur pour nous aider dans ces situations. Et donc pour conclure ou synthétiser, je pense qu'en chaque situation de conflit, il faut évaluer avec des critères définis. Quelle est la position hiérarchique ou organisationnelle de chacun ? Quelle est donc la responsabilité de chacun et le respect nécessaire lié à cette autorité? Ce point spécifique n'est plus tellement regardé dans notre société occidentale. Cependant, c'est important. Quelle est la vérité dans la situation donnée? Et quelle est l'intention de chaque personne, évidemment incluant la nôtre? Quelle est notre intention? Toute évaluation sans l'ensemble de ces critères sera forcément erronée. Si on se base que sur un critère pour évaluer est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, qu'est-ce qui se passe, etc., pourquoi la personne réagit comme ça, je pense qu'on est dans l'erreur. Il faut l'ensemble des critères. Et enfin, que chacune de nos paroles, de nos argumentations, soit comme l'exemple de Jésus, accompagnée par une parole de grâce, d'amour, de bonté et de bienveillance. Même si dans certains cas le ton est ferme, il faut toujours veiller à apporter ces paroles de bénédiction à l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.